France Inter, franceinter.com.
Bonjour Alain Le Gougec. Oui, c'était même le 29 mai 1968, il y a 40 ans, le jour où De Gaulle a disparu.
Le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, je me suis résolu.
Mille ans d'histoire. Un chef d'État qui disparaît pendant plusieurs heures sans que personne, pas même son premier ministre, sache où il se trouve, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la France contemporaine. C'est pourtant ce qui s'est passé le mercredi 29 mai 1968. Ce jour-là, à 11h30, après avoir reporté au lendemain le Conseil des ministres, le général de Gaulle quittait discrètement l'Élysée, se rendait à Issy-les-Moulineaux et s'envolait en hélicoptère vers une destination inconnue. On saura plus tard qu'il était parti à Baden, chez le général Massue, commandant en chef des forces françaises en Allemagne. Mais on ne saura jamais pourquoi. Avait-il eu la tentation de se retirer, comme il le disait lui-même le 7 juin à la télévision, ou était-ce un coup de théâtre pour mettre fin à la crise que depuis le début du mois de mai 68, rien ni personne ne semblait pouvoir arrêter. Au point que la veille de la disparition du général de Gaulle, constatant l'impuissance de l'État, François Mitterrand, le 28 mai, se déclarait prêt à prendre sa succession.
En France, depuis le 3 mai 1968, il n'y a plus d'État. Et ce qui en tient lieu ne dispose même pas des apparences du pouvoir.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mise en place. Et qui sera président de la République ? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, je suis candidat.
Jean-François Sirinelli, bonjour.
Bonjour.
Alors hier, nous avons parlé avec vous des grèves de mai 68 qui avaient ajouté à la révolte des étudiants celle du monde ouvrier. Grève qui avait paralysé, nous l'avons dit, la France entière et que les accords de Grenelle du 27 mai n'avaient pas réussi à arrêter. Si bien que devant l'impuissance de l'État, dès le lendemain 28, il y a d'ailleurs 40 ans, jour pour jour, eh bien, François Mitterrand, que l'on vient d'entendre, se déclarait candidat à la présidence de la République. Et on entrait alors dans une troisième phase de mai 68, une phase politique très courte, hein, puisqu'elle n'a duré que 72 heures, du 27 au 30 mai. Mais 72 heures pendant lesquelles, vous le dites, Jean-François Sirinelli, tout pouvait se produire.
Tout à fait. D'ailleurs, la veille, il y a eu en fin d'après-midi, le lundi 27, une réunion à Charletti. Et l'un des participants à cette réunion dit, en reprenant un vieux slogan de 1936, « Tout est possible ».
La situation est révolutionnaire.
Alors, naturellement, l'historien sera moins enthousiaste sur l'évaluation de la situation, puisque l'historien a le devoir de distance. Mais en même temps, ce qui est vrai, et c'est pour ça que l'expression « tout est possible » rend assez bien compte de la réalité, c'est que les contemporains ont le sentiment, pendant, vous le disiez, 72 heures, que tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Parce que jusque-là, on a eu une crise étudiante, on n'y revient pas, on a eu une crise sociale qui débouche au bout d'un moment sur une forme de tétanie et de paralysie de la France. Mais là, l'impression qui prévaut, c'est que le pouvoir politique, depuis la fin de la semaine précédente, en l'occurrence le général de Gaulle, n'a plus prise sur la situation. Et de surcroît, l'issue qu'avait cherchée Georges Pompidou, l'issue par les accords de Grenelle, apparemment, on l'a vu hier, le lundi 27 au matin, cette issue n'en a pas été une.
Donc à partir de là, ne parvient pas à faire reprendre le travail. Les syndicats eux-mêmes ont perdu le contrôle. Il n'y a plus d'État, même, disait François Mitterrand le lendemain 28, au point qu'il se présente. D'ailleurs, c'est un discours qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir un peu prématurément enterré le général de Gaulle.
Beaucoup reproché, d'ailleurs, y compris dans son propre camp. Il y aura des règlements de compte à l'automne 1968 parce qu'on a considéré que son attitude ne respectait ni l'esprit ni la lettre de la Constitution. Mais qu'il prenne précisément de tels risques montre qu'à ses yeux, ça en vaut la peine. En d'autres termes, que le pouvoir est à prendre. Alors, était-il vraiment à prendre ? C'est un autre problème. Mais on sait très bien qu'il y a des moments dans l'histoire nationale où précisément la perception qu'ont les contemporains est essentielle. Et là, les contemporains ont le sentiment qu'il n'y a plus d'État et que le pouvoir est à prendre.
Alors, on pense à François Mitterrand. On pense également à Pierre Mendès-France, qui était présent d'ailleurs à cette réunion, cette grande réunion du Stade Charletti le 27 au soir. Et puis, Pierre Mendès-France, dont le nom d'ailleurs est cité également le 29 mai, pendant une manifestation organisée par la CGT entre la Bastille et la gare Saint-Lazare, entre 15h et 20h.
L'autre fait capital de la journée, c'est la politisation sans équivoque du mouvement de grève, tout au moins dans certaines confédérations syndicales.
Georges Segui, par exemple, secrétaire général de la CGT, l'a reconnu devant Marc Alvarez au cours de la manifestation qui a eu lieu cet après-midi de la Bastille à la gare Saint-Lazare. Quant à Eugène Descamps, le secrétaire général de la CFDT, c'est lui qui est allé le plus loin, non seulement en demandant un changement de régime, mais en désignant sans équivoque un homme pour en prendre la tête, Pierre Mendès-France.
Adieu de Gaulle, la Chianlit, c'est lui. C'est ce que chantaient les manifestants en défilant le 29 mai 68 de 15h à 20h entre la Bastille et la gare Saint-Lazare. Et alors de Gaulle, justement, c'est à ce moment précis qu'on apprend qu'il a disparu. Depuis 11h30, heure à laquelle il a quitté l'Élysée, nous sommes le 29 mai, plus personne ne sait où il est, pas même le Premier ministre Jean-François Sérigny.
Oui, nous sommes un mercredi. Traditionnellement, le matin se tient le Conseil des ministres. Quelques minutes avant ce conseil, le général de Gaulle téléphone à son Premier ministre et lui dit « J'ai besoin de prendre du champ, je vais passer quelques heures à Colombey-les-Deux-Églises, j'annule donc le Conseil des ministres ». Et il termine d'ailleurs par cette phrase inhabituelle dans sa bouche « Je vous embrasse », qui aurait dû mettre d'ailleurs la puce à l'oreille du Premier ministre. Et en fin de matinée, à 12h45 précisément, il gagne l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, les deux Alouettes 3 de service présidentiel décollent, théoriquement, direction Colombey-les-Deux-Églises. Il faut moins d'une heure pour atteindre Colombey. Une heure après, le général de Gaulle n'est pas arrivé à Colombey. On ne sait pas où il est.
À 14h, effectivement, l'Élysée téléphone au Premier ministre, à Georges Pompidou, en disant « Mais le général de Gaulle a disparu ». Alors, on ne sait pas où il est. Et puis, brusquement, plus tard, bien plus tard, à 18h, on apprend qu'il a atterri à Colombey.
20h, au RTF, Jean-Pierre Elkabbach, Interactualité.
Le départ et le mystérieux emploi du temps du général de Gaulle posent ce soir à tous les journalistes et à tous les hommes politiques un certain nombre de questions. Pendant 6h, sa trace a été perdue. Depuis ce matin, en tout cas, un certain suspense s'est créé, Jean-Claude Turgeman, autour des activités du président de la République, et tout a commencé à 10h ce matin.
Théoriquement, le général de Gaulle a quitté l'Élysée vers midi. Il n'est arrivé à Colombey qu'à 18h. C'est beaucoup. Et l'on se demande si le général de Gaulle ne s'est donc pas arrêté quelque part entre Paris et Colombey. Là encore, bien sûr, mille hypothèses.
Le seul renseignement précis que nous possédons, c'est que le général de Gaulle a fait beaucoup d'hélicoptères.
Et oui, puisque au lieu d'aller chez lui directement en Champagne à Colombey-les-Deux-Églises, il est d'abord passé par l'Allemagne, il est passé à Baden-Baden, auprès du commandant en chef, un vieil ami, un gaulliste, un général gaulliste, à Baden en Allemagne. Alors, ce qu'on ne sait pas, on a su que plus tard qu'il était allé à Baden, mais ce que l'on n'a jamais su, même jusqu'à aujourd'hui, ce sont les véritables raisons de ce passage en Allemagne. Jean-François Sérigny, on a dit qu'il était allé tester la fidélité de l'armée, quitte au besoin à faire appel à elle pour rétablir l'ordre en France.
Oui, il y a plusieurs hypothèses. La première, on l'a entendu tout à l'heure dans le premier, au moment de votre générique, quand il dit à Michel Droit une semaine plus tard, j'ai eu la tentation de me retirer. Donc, première hypothèse possible, se retirer. Toujours est-il que ça n'a pas été le cas, donc c'est une hypothèse complexe, parce que on peut s'interroger, l'historien a toujours du mal rétrospectivement à sonder les cœurs et les âmes, à essayer de distinguer parmi les affects. A-t-il vraiment éprouvé le besoin de se retirer ? On sent à travers un certain nombre de témoignages qu'il y a eu un trouble entre le vendredi précédent, où il a dit, vous vous rappelez, on en a parlé hier, j'ai misé à côté de la plaque, c'est-à-dire que son discours a échoué. Le constat aussi que la solution préconisée par son Premier ministre donne l'impression au moins sur le moment d'échouer. Donc il y a un trouble. Pour autant, il ne s'est pas retiré. Donc là, on reste dans l'uchronie, dans la politique fiction. On crée un événement qui n'a pas eu lieu en disant qu'en est-il. En revanche, il y a deux autres hypothèses qui sont très intéressantes, qui sont l'hypothèse, j'allais dire, de l'effet de catharsis recherché, c'est-à-dire, dans le fond, inquiété, si vous voulez, inquiété par le silence, inquiété par l'absence, et on rejoint là la deuxième hypothèse, la question de l'armée. Et là, on entre dans un domaine polémique, parce qu'un certain nombre d'adversaires du général de Gaulle diront « oui, il y a des tanks qui ont commencé à circuler, oui, l'armée était prête à intervenir ». Là, en tant qu'historien, je mets le holà. Honnêtement, il ne faut pas qu'on tombe dans le fantasme. Mai 68 n'a pas été une guerre civile. Faire intervenir l'armée, qui a été une tentation, peut-être à certains moments, notamment pour des opérations de maintien de l'ordre, aurait été à coup sûr une transgression, et là, aurait enclenché éventuellement un danger de guerre civile.
Petit détail, il n'a même pas fait appel à l'article 16 qu'il avait utilisé au moment du putsch des généraux d'Alger en 61.
Absolument. Ouais. Et les seuls chars qu'on a vus, il y a les chars de la gendarmerie de Satory, et il y avait aussi des unités de blindés qui revenaient de manœuvre. Hein. Donc là, il faut que les choses soient claires, c'est établi maintenant historiquement.
Alors, il y a aussi le fait qu'il était démoralisé, au fond, qu'il ne savait pas très bien ce qu'il allait y faire, peut-être chercher le réconfort. C'est ce qu'a dit plus tard le général Massue. Il disait « J'ai vu arriver à Baden un homme démoralisé, je lui ai remonté le moral en disant « Mon général, il faut remonter en selle ».
Oui, c'est ça qui est compliqué, parce qu'on a, dans le fond, il y a eu un dialogue, puisque les épouses se sont éclipsées, donc c'est un dialogue entre deux hommes, hein, pendant plus d'une heure. Et on n'a que la version de Massue. Et Massue, effectivement, dit avec respect, en même temps dans son témoignage, mais dit, dans le fond, j'ai trouvé un général de Gaulle désorienté, hésitant, assez abattu, et implicitement, il nous dit, je lui ai remonté le moral. Très sincèrement, là aussi, il faut se méfier. Non pas que la parole de Massue doive être mise en doute intrinsèquement, mais le général de Gaulle avait l'habitude de jouer de ses interlocuteurs. Et bien évidemment, par-delà l'effet de catharsis recherché qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire, dans le fond, inquiété en allant ailleurs, et notamment voir un militaire, parce que d'une façon ou d'une autre, ça filtrerait dans les heures qui... C'est vrai, il y a probablement aussi l'idée de sonder un vieux gaulliste et un camarade de corps, c'est-à-dire un militaire. Mais il ne faut pas aller, à mon avis, plus loin. Si le général a douté, il en a fait lui-même l'aveu, je crois qu'à cette date, le mercredi après-midi, sa résolution est prise. Il le dit d'ailleurs dans le même discours, le même débat avec Michel Droit, je me suis résolu. Hein, donc là, c'est un homme qui a déjà fait ses choix.
Et puis l'idée, comme vous le dites, de faire un coup de théâtre, de jouer un peu la comédie, ce qu'il ne pouvait pas dire à Michel Droit, il ne pouvait pas dire « j'ai joué la comédie de celui qui s'en allait ». Il y a peut-être l'idée justement de retourner, de faire basculer l'opinion et en sa faveur, c'est ce qui va se produire. Donc il revient à Colombey, on le voit réapparaître à 18h. Il annonce par téléphone qu'il interviendra le lendemain à la radio. Il ne sait pas encore ce qu'il va y dire. Vous dites qu'il est partagé entre deux formules. Que va-t-il annoncer aux Français ? Un référendum ou la dissolution de l'Assemblée nationale.
Oui, revenons quand même 10 secondes sur le voyage en Allemagne. En même temps, j'essaye d'en nuancer les aspects les plus marquants. Ça reste historiquement incongru. Il faut que vos auditeurs aient en tête que quand même le fait qu'un président... Oui, il est à l'étranger. Certes, il est dans une garnison française. D'une certaine façon, en termes de droit international, il est sur le territoire français puisqu'il est dans les troupes d'occupation en Allemagne. Mais, je veux dire... Pour les historiens, on est en face d'une situation qui rajoute encore au caractère dramatique et inédit. Alors, vous le disiez, oui, que va-t-il faire ? Il annonce simplement, il y a un très court communiqué, en fin de journée le mercredi, qui dit « le général de Gaulle parlera demain ». Mais, effectivement, on a maintenant des témoignages concordants qui montrent que jusqu'au jeudi midi, puisque le Conseil des ministres se tient en début d'après-midi, jusqu'au début de l'après-midi, pardonnez-moi, il reste sur l'idée du référendum. Alors qu'on le verra peut-être dans un instant, il annonce tout autre chose. Et il y a un homme qui joue un rôle essentiel, c'est Georges Pompidou. C'est Georges Pompidou qui préconise, on va y venir, une autre solution.
Et après quoi, donc, le général de Gaulle prononce à la radio les quelques mots qui allaient faire tout basculer. C'était le 30 mai 1968 à 16h30.
Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
C'était le général de Gaulle, le 30 mai 68 à 16h30. Donc ce discours capital, vous le dites, Jean-François Sirinelli, qu'est-ce qui a fait, en quoi a-t-il été important au moment où de Gaulle, quand même, nous sommes le 30 mai, depuis un mois, les étudiants et les manifestations contre anti-gaullistes le conspuent dans les rues, et on l'a fait même, d'ailleurs on l'a entendu, on l'a dit hier, le 24 mai, le soir de son premier discours, qui n'avait pas eu du tout d'effet, il avait été conspué, et là, qu'est-ce qui va faire brusquement, qu'est-ce qui change tout? Est-ce que c'est la résolution dont il fait preuve ce jour-là, hein? Je me maintiendrai, je dissous, je ceci, je cela.
Je crois. Vous avez répondu à votre question. Il faut que vos éditeurs sachent qu'ils ont eu le discours quasiment en temps réel. Vous avez dû, pour des raisons de formatage, le réduire légèrement, oui. Mais c'est un discours très bref. Donc on a eu là l'essentiel. Donc premier élément, on est dans du lapidaire, mais du lapidaire, on fait court pour faire fort, en quelque sorte. Mais cela dit, ça ne suffit pas à dire pourquoi ça a fait fort. Alors ça a fait fort, je crois, vous l'avez dit, parce qu'on retrouve un général de Gaulle métamorphosé. On retrouve un général de Gaulle qui semble à nouveau avoir prise sur l'événement. Alors que depuis, non seulement le vendredi précédent, mais auparavant, il était en Roumanie. Donc depuis trois semaines, il était subissait. À l'arrière-plan et il donnait l'impression de subir. Ce qui était en total, si vous voulez, contraste avec son image historique. Le deuxième point, c'est que non seulement il est là, non seulement il semble reprendre la situation en main, mais il proclame une réelle résolution. C'est-à-dire que c'est partisans peuvent trouver non seulement désormais des raisons d'espérer, mais des raisons du sursaut, au sursaut.
Alors vous insistez beaucoup sur une chose, c'est le média qu'il utilise. Jusque-là, la télévision était très utilisée, beaucoup de foyers étaient déjà équipés en France. Il refuse de passer à la télévision, ce discours est uniquement radiophonique.
Ah, tout à fait. Or, là aussi, il faut avoir en tête que certes, la télévision à cette époque est en grève, mais il aurait pu tout à fait y parler. D'ailleurs, tous les soirs, il y a un journal télévisé à l'époque, hein, malgré la grève. Donc, il aurait pu parfaitement. Donc, c'est un choix délibéré.
Il y a même des journaux à la radio, on l'a entendu.
Tout à fait. Ouais. C'est un choix délibéré. Alors, cela étant, bien évidemment, là, c'est un choix délibéré, j'allais dire, d'occurrence historique et d'allusion historique. C'est le général Micro qui réapparaît. C'est l'homme du 18 juin. C'est le geste fondateur qui ouvre la geste gaullienne, en quelque sorte. Hein. Donc là, c'est délibéré. C'est une sorte de second appel intérieur, endogène, en quelque sorte.
Et un appel efficace, puisqu'il provoquait aussitôt, une heure et demie plus tard, après ce discours, un véritable raz-de-marée sur les Champs-Élysées, où une manifestation avait été prévue quelques jours plus tôt par les gaullistes.
Bien, moi, je me trouve devant le rond-point des Champs-Élysées. Je suis au premier étage du journal Le Figaro, où passe en ce moment, si vous voulez, le corps de la manifestation. En tête du cortège, donc, un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière, les associations d'anciens combattants, beaucoup de drapeaux tricolores. Derrière ces drapeaux tricolores, à quelques mètres, si vous voulez, de la tête du cortège, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schumann. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation ?
Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration.
Si l'on peut d'ores et déjà avancer un chiffre, je crois qu'on peut avancer le chiffre de 700 000. Plusieurs slogans, unité de la France, arrêtez la violence, Mitterrand à la santé, Mendès au rencard, Giscard avec nous. Des portraits aussi, des portraits du général De Gaulle, et puis des banderoles où l'on peut lire vive la France, vive De Gaulle, et beaucoup de gens parmi les badauds, des gens qui se trouvent sur le trottoir et qui font avec les deux doigts le signe que l'on connaît bien, le signe du V, le signe de la victoire.
Mitterrand, charlatan, au pot-tour, on a même entendu ça ce 30 mai 68 dans cette manifestation considérable de, sur les Champs-Élysées, la plus grande manifestation de mai 68, alors que jusque-là, toutes les manifestations étaient des manifestations d'étudiants ou d'ouvriers ou d'étudiants et d'ouvriers en même temps. Et là, c'est la plus importante. C'est la dernière, mais c'est la plus importante.
Oui, c'est Jean-François une sorte Rinelli. De paradoxe, mais qui n'est qu'apparent. C'est la manifestation la plus importante de mai 68. Alors, ils disent 700 000, le journaliste le dit de bonne foi, ça ne sera pas 700 000, mais on estime autour de 400 000, peut-être 500 000, cette manifestation. Il faut imaginer 500 000 personnes qui remontent les Champs-Élysées. D'autant que on sait maintenant que, certes, la manifestation était prévue depuis la veille, mais que les gaullistes avaient hésité même sur le choix de la place de la Concorde, en se disant, si on est 20 000, 30 000, 40 000, on aura l'air idiot.
Alors ça, c'est le discours, évidemment, du général de Gaulle. C'est aussi une réaction de peur. Il n'y a pas que des gaullistes dans cette manifestation. Vous dites que c'est le moment, précisément, où les gens, après avoir soutenu, pour beaucoup d'entre eux, les étudiants ou les grévistes, s'être plaints de la violence des réactions de la police, eh bien, brusquement, ils se mettent à avoir peur. Ils craignent le chaos, justement, dans lequel on pourrait se trouver. La dramatisation par de Gaulle a beaucoup joué. Il y a aussi le soulagement. Vous dites que, chose étrange, le lendemain de cette manifestation, eh bien, brusquement, l'essence qui manquait à cause des grèves, elle réapparaît. Et nous sommes à la veille du week-end de la Pentecôte, Jean-François Cyrinelli.
Ah, tout à fait. Donc, nous sommes le vendredi, va s'ouvrir le week-end de Pentecôte. Et comme par hasard, je suis un peu ironique, mais je constate que les dépôts d'essence sont, pour certains d'entre eux, libérés le vendredi matin.
On sait, par exemple,
en région... Non, je ne dirais pas ça. Et ça serait intéressant de voir la chaîne de commandement. Mais rappelez-vous, là, on est en temps réel, 72 heures. En début de semaine, on nous dit qu'il n'y a plus d'État. C'est excessif. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer un lundi ou un mardi, dans le contexte, une opération de police. Le vendredi, on peut, parce que le basculement a eu lieu. Et les dépôts d'essence, l'essence coule dans les réservoirs.
Alors, cela dit, le travail ne reprend pas tout de suite. On pourrait s'attendre à ce que les grèves se terminent. Mais même, il y a des occupations d'usines jusqu'au 17 juin. Et même parfois, d'ailleurs, c'est dans la violence que le travail reprend. C'est là qu'il y a le plus de morts en mai 68. Il y a eu un jeune, un lycéen maoïste qui a été tué à Flins le 10 juin. Le 11, il y a deux morts aux usines Peugeot de Montbéliard. Ça a été très dur. Cette reprise du travail est très lente, beaucoup plus lente qu'on peut le croire.
Tout à fait. Gilles Totin, vous l'avez dit, ce jeune homme, ce jeune lycéen, et deux ouvriers donc chez Peugeot. Il y a des moments très difficiles, mais en même temps, il faut bien voir, et c'est un élément d'explication supplémentaire, que depuis le jeudi et le discours, la France est entrée en campagne électorale. C'est ça le coup de génie, à cause de la dissolution.
Voilà. Et on ne veut pas apparaître comme...
Aucun parti, aucun syndicat n'a intérêt à apparaître comme le fauteur de troubles, d'autant que la campagne électorale, naturellement, insiste sur le PC et sur la CGT, bien évidemment.
Et c'est ce qui explique que le 17 juin, le mouvement de grève est fini. Il ne fallait pas que, justement, les syndicats puissent être accusés d'empêcher les élections législatives que De Gaulle avait annoncées le 30 mai.
Peugeot annonce que son personnel reprendra le travail mardi 4 juin.
Plusieurs sociétés pétrolières ont pu faire reprendre ce matin les expéditions de carburant vers les stations.
Les nouveaux occupants ont décroché le drapeau.
Ce matin, en effet, la police a fait évacuer les piquets de grève.
La poste principale a été ouverte par la police. Les non-grévistes ont immédiatement rejoint leur lieu de travail.
Le mois dernier, tout s'en allait. Notre pays, scandalisé par l'anarchie universitaire, paralysé par la grève généralisée, pouvait penser que la République disparaissait avec la liberté. Le 30 mai, sentant qu'enfin s'éveillait l'instinct national, j'en ai appelé au peuple. Il m'a répondu. Dans ses profondeurs, tout a été réparé. voilà la page qui vient d'être inscrite au livre tourmenté de notre histoire.
Et c'était le général de Gaulle sifflant la fin de la partie le 29 juin 1968, la veille du deuxième tour des élections législatives qu'il avait annoncé le 30 mai, et des élections législatives triomphales pour les gaullistes. Il représente, à la suite du deuxième tour, 294 députés sur 485, c'est-à-dire 61% des députés. On n'avait encore jamais vu
jamais.
Ça en France.
Maintenant, on a vu à certains moments de notre histoire plus récente un parti qui arrive à avoir la majorité. À l'époque, absolue, je veux dire, à l'Assemblée nationale, à l'époque, c'est inédit. Donc, ça apparaît comme un raz-de-marée. Et donc, c'est une manière de paradoxe historique. Mai 68 finit sur un raz-de-marée gaulliste.
Alors que, parce que c'est une partie de mai 68 qu'on n'évoque pas, bon, évidemment, c'est le mois de juin, bon, c'est plus mai, mais quand même, la façon dont ça se termine, on n'en parle jamais. On parle toujours de la phase ascendante, de la phase étudiante, de l'enthousiasme, des utopies de mai 68, et jamais de la manière dont ça s'est terminé, et de la déception des vaincus, entre guillemets, parce que vous dites qu'il n'y a vraiment pas eu vainqueurs et vaincus, mais une déception qui s'est transformée un peu en nostalgie. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup sur ce modelage, Jean-François Serignelli, aujourd'hui.
Oui, je crois, vous avez raison. Quand on regarde, je suis étonné en tant qu'historien, très sincèrement, par cette vague pour un 40e anniversaire, qui n'est pourtant pas une date qui sonne particulièrement juste historiquement.
Alors que le 50e anniversaire de la 5e République,
de la 5e République
dont nous avons parlé, personne n'en a parlé.
Un peu à l'as, en tout cas du 13 mai 58 qui enclenche le processus. Vous avez raison, nostalgie, j'irais même plus loin, mélancolie. Il y a une forme de mélancolie de gens qui approchent de la soixantaine ou qui l'ont dépassé. Et donc, d'une certaine façon, c'est ce mois de juin très curieux, hein, amer d'une certaine façon pour les 68 arts, qui explique ces relances et ces regains de nostalgie et de mélancolie au fil des décennies.
Un mai 68 dont le principale conséquence, selon vous, c'est que ce mouvement a été un électrochoc salutaire. Vous dites en substance qu'il a paradoxalement prouvé la solidité des institutions que ce mouvement prétendait vouloir renverser.
Oui, en ce qui concerne les institutions, ça a été ce qu'on appellerait en termes médical ou médicaux un test des forces. C'est-à-dire sur un jeune régime, est-ce qu'il est capable de subir, de supporter et de surmonter une telle épreuve ? Réponse, oui. Donc le régime sort renforcé. En même temps, électrochoc sur la société française. Ce n'est pas un mouvement fondateur, c'est un mouvement accélérateur. C'est ça, mai 68. Si j'avais à résumer d'une formule, je dirais c'est un formidable au sens hugolien du terme, hein, c'est-à-dire simplement intense, accélérateur de particules historiques. C'est-à-dire que ça accélère la mutation de la société française et donc, au bout du compte, ça accélère le rythme de notre histoire nationale.
Merci Jean-François Serignelli. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, mai 68, L'événement Janus, un livre qui vient de paraître chez Fayard. À lire également parmi toutes les publications qui sont sorties à cette occasion, le dictionnaire de mai 68, sous la direction de Jacques Capdevielle et Henri Rey, publié chez Larousse, Une fidélité gaulliste à l'épreuve du pouvoir, de De Gaulle à Chirac, de Jean Méo, aux éditions Lavoiselle, et puis L'accord secret de Baden-Baden, de Henri-Christian Giraud, aux éditions du Rocher, et enfin L'Élysée en péril, les coulisses de mai 68, de Philippe Alexandre, qui vient d'être réédité chez Fayard. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Stéphanie Coulon et Éric Mainviel, documentation et archivina Emmanuel Fournier et Claire Destacan, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une émission initialement prévue le 15 mai dernier, un peintre révolutionnaire, Goya.
Écoutez les paroles d'un vieux sèche-cheveux qui va rendre son dernier souffle. Je veux qu'on se rappelle de moi comme du prince du brushing, pas comme d'une vieille ordure.